Et donc on va faire simple. Comme chaque semaine, on retrouve les conversations avec Daniel Haber. Que voici, que voilà, venir nous expliquer et refaire un retour sur l'année 2023, bien sûr, marquée par la guerre entre Israël et le Hamas.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Comme chaque début de semaine, nous conversons autour de la géopolitique mondiale et principalement depuis le 7 octobre de la géopolitique en Israël. Alors, est-ce qu'on peut faire un bilan en cette fin d'année 2023?
On peut faire surtout un bilan de la situation géopolitique d'Israël, en Israël, dans sa région et dans le monde. Et il faut le faire. Il faut un petit peu sortir des commentaires dont on est abreuvé, qui sont souvent très émotionnels. C'est incontournable, c'est normal. Pour essayer de faire une petite analyse à froid, comme on le fait ensemble, Blaise, depuis plusieurs temps. Je vois au fond quatre points à souligner. Le premier, c'est que en réalité, le Hamas n'a pas beaucoup de soutien dans le monde. Tout le monde est obligé d'accepter le fait que c'est un groupement terroriste et donc les gens qui le soutiennent sont tous ceux qui sont affiliés à ce qu'on appelle la mouvance des frères musulmans, qui est le grand mouvement islamiste mondial, qui a un projet de convertir au fond le monde à l'islam et dont le Hamas est une branche. Et donc les pays qui soutiennent le Hamas sont peu nombreux. C'est l'Iran, bien sûr. C'est la Turquie, dont le parti de Erdogan est affilié aux frères musulmans. C'est évidemment le Qatar, c'est évidemment l'Algérie, la Tunisie, etc. Bon, quelques États que j'appellerais des États voyous. Mais sinon, dans l'ensemble, ce sont plutôt les idiots utiles de l'islamisme qu'on a entendu, ces partis de gauche. Extrêmement actif aux États-Unis, un peu le woke, qu'on regroupe sous le terme de wokisme, et qui font des dégâts épouvantables dans les universités, par exemple, mais qui empêchent aussi au sein du Parti démocrate Biden d'avoir complètement les coudées franches et d'être obligé de faire de temps en temps des déclarations qui sont pas 100% pro-israéliennes. Mais tout le monde comprend qu'en fait, les Américains soutiennent Israël, mais qu'il faut de temps en temps donner des gages à cette gauche un peu folle. Et puis on trouvera en Europe beaucoup de partis d'extrême gauche, comme en France, la France insoumise. Vous en avez aussi en Belgique, en Allemagne, un petit peu partout. Donc, si vous voulez, c'est plutôt ça qui a donné cette impression de soutien apparent au Hamas. Mais en réalité, ça c'est mon deuxième point, c'est que les frères musulmans ont été capables de générer une fake news gigantesque, une espèce de conte de fées, un narratif abstrait, qui est que ce qu'a fait le Hamas, c'était en fonction de la question palestinienne. Et alors c'est faux pour deux raisons. D'abord parce que la question palestinienne, elle était toujours abondamment traitée pendant les 75 ans qui sont passés, on n'a fait que ça, et que même au moment des négociations pour les accords d'Abraham et pendant les négociations qui sont toujours en cours entre l'Arabie Saoudite et Israël et les Américains, on mentionne la question palestinienne et on sait qu'on va la résoudre, qu'on va tenter de la résoudre à l'intérieur de ce nouveau cadre régional d'une alliance entre l'Iran et entre Israël et les pays sunnites contre l'Iran. Donc, et deuxièmement, c'est une fake news parce que la façon dont le Hamas a mené son opération du 7 octobre prouve bien qu'il n'avait pas l'intention de faire avancer la question palestinienne puisqu'il l'a fait reculer. Donc, c'est vraiment la fake news par excellence. Et donc, il faut ramener, et c'est mon troisième point, la réalité de ce qu'on voit aujourd'hui au Moyen-Orient à la question iranienne. C'est la question iranienne qui domine. Quelle est la question iranienne? Vous avez un pays qui, depuis qu'il est au pouvoir, presque 50 ans, hein, depuis 78, veut imposer sa forme d'islam, le chiisme, à toute la région du Moyen-Orient et probablement au-delà, et qui s'appuie sur la puissance fantasmée de l'ancien empire perse, mais aussi sur l'argent du pétrole, et il en reste, et sur la volonté d'imposer le chiisme, qui est fort heureusement pour nous, un chiisme par rapport au sunnisme. Et puis, ils se sont donné des moyens, les Iraniens, ils ont des missiles et des drones, et surtout, ils sont en train de développer une bombe nucléaire. Ils ont organisé des alliances, c'est l'axe chiite du Nord, qui va de l'Iran jusqu'au Liban, avec le Hezbollah, en passant par la Syrie, l'Irak, dans lesquels il y a des milices iraniennes qui envoient des missiles sur Israël et sur les bases américaines d'Irak. Et puis, ils ont financé depuis des décennies des Arabes sunnites qui s'appellent le Hamas, le djihad islamiste et d'autres milices qui portent des noms divers et qui qu'on retrouve à Gaza, dans la côte sur la West Bank, en Judée-Samarie et en Israël même. Et enfin, cherry on the cake, hein, cerise sur le gâteau, les Houthis qui sont en train d'essayer d'empêcher la liberté de navigation, ce qui est probablement l'erreur que l'Iran n'aurait pas dû commettre et qui va peut-être leur coûter cher, je ne sais pas. En tout cas, sous nos yeux, on voit une véritable opération iranienne se dérouler pour déstabiliser la région, évidemment empêcher la poursuite des accords d'Abraham et la signature d'un accord entre Israël et l'Arabie Saoudite, ça c'est le projet, et puis aussi de détourner l'attention du monde sur le fait qu'il continue de développer la bombe. Hein, nous parlions pendant toute l'année 2023 d'éventuelles négociations avec les Américains pour leur retour à un accord du type 2015, tout ça on n'en parle plus, les Iraniens se sont rangés parfaitement dans le camp de l'agression et il s'agissait de démoniser Israël, de le déconsidérer, et derrière Israël l'Amérique et derrière l'Amérique tout l'Occident, et d'une certaine manière ils ont réussi. Et d'ailleurs les premières réactions des Occidentaux, les Américains qui ont envoyé le 8 octobre leur Navy, leur porte-avions aux portes de l'Iran, et même Macron qui parlait d'une coalition du type anti-Daesh pour battre le Hamas, avait tout de suite compris que c'était l'Iran. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon dernier point, c'est qu'il y a eu une guerre de l'information que pour l'instant nous avons perdu, nous Occidentaux, Israël avec, et qui a été menée évidemment par les frères musulmans sur l'idée de que tout ça c'est la question palestinienne, alors que c'est une fake news. Et on voit que ben, ils ont eu évidemment le soutien par exemple de la Turquie, dont le parti d'Erdogan, l'AKP, est proche des frères musulmans, et puis le soutien technique des Russes, qui sont les maîtres de la guerre de l'information et qui ont apporté leur concours, tout simplement parce que ça les arrangeait de détourner l'attention de la guerre en Ukraine, tout simplement. Hein. Et tout cette fake news, cette guerre de l'information, si elle a réussi d'une certaine manière, c'est parce qu'elle a trouvé en Occident, c'est ça qui est tragique, des relais dans les organisations du type ONG, Amnesty, Médecins sans frontières, etc. Tous ces partis d'extrême gauche dont j'ai parlé, et les médias de gauche, Le Monde, Guardian, New York Times, la BBC, CNN, qui, au nom des droits de l'homme et avec au fond beaucoup de naïveté, ont soutenu cette fake news et se sont finalement comportés comme ce qu'on appelle les idiots utiles de l'islamisme. Voilà pourquoi, pour l'instant, la messe n'est pas dite, comme dirait l'autre, on peut dire que la fake news est un petit peu imposée.
Alors, Daniel Aber, que doit faire Israël?
Pour l'instant, Israël n'a qu'une seule chose à faire, c'est ne pas se laisser distraire de son seul objectif, c'est débarrasser Gaza du Hamas. Ça ne veut pas dire on n'éradique pas un mouvement terroriste, mais on va l'empêcher de nuire à partir de Gaza. Et on peut dire que les choses progressent bien. On n'est pas 100% informé de l'état d'avancement, mais on sait qu'il faut que ça prendra du temps. Les Israéliens ont toujours dit que ça serait long, donc on s'installe dans la durée. On sait qu'on est toujours dans la phase numéro 1 avec beaucoup de bombardements. Ils ont beaucoup ralenti, hein. On est passé de 400 à 250. Maintenant, c'est plutôt une centaine. Et il est certain que au début de l'année prochaine, à partir de la semaine prochaine, à partir de janvier, peut-être dans le courant du mois de janvier, il y aura de moins en moins de bombardements et de plus en plus d'opérations terrestres. L'idée, c'est évidemment de détruire le Hamas et ses dirigeants, et surtout les tunnels, la logistique, pour que plus personne puisse les utiliser dans l'avenir. Mais on peut pas le faire tout de suite parce qu'il y a les otages et parce que ça prend un petit peu de temps technologique. Donc on va le faire au mois de janvier et dans les mois qui viennent. Et donc ça, c'est la préoccupation numéro un de Tsahal. Et on voit bien qu'elle ne se laisse pas distraire par tout ça. Elle a le soutien américain et les autres peuvent hurler ou crier. Tout ça ne change rien. De toute façon, Il n'y a pas de sanctions derrière, tout ça a été inefficace contre Israël, on peut le laisser faire. Et puis on va passer à la phase la plus importante, qui est la diplomatie, qui probablement nous intéressera, nous, dans conversation pendant toute l'année 2024. Qu'est-ce qu'on va négocier? Ben, Israël doit négocier plusieurs relations. La première, c'est évidemment avec les Américains. C'est pas si facile que ça, parce que les Américains ont bien compris les enjeux, mais ils sont prisonniers de la campagne présidentielle qui s'annonce, des difficultés avec le Parti démocrate et des républicains. Donc c'est avec les Américains qu'il faut gérer tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut gérer? C'est l'après-guerre de Gaza, c'est-à-dire la reconstruction d'une vaste alliance entre Israël et les États arabes sunnites, avec qui Israël a déjà fait la paix, avec qui elle a signé les accords d'Abraham et avec qui elle va les signer comme l'Arabie saoudite, tout ça étant évidemment garanti par les Américains. Donc cette vaste coalition qui est en train de se monter contre l'Iran permettra à l'intérieur de cette coalition de régler peut-être une partie de la question palestinienne, qui est quand même très intéressante parce que les Palestiniens sont les seuls Arabes sunnites. C'est les mêmes gens que les Jordaniens, les Égyptiens, c'est les mêmes familles, etc. Ils ont la même religion. Mais eux, les Palestiniens, sont pro-iraniens, alors que tout le reste des Arabes sunnites considèrent l'Iran comme leur ennemi principal, comme Israël et comme l'Occident. Donc il faudra bien régler cette question et on aura l'appui là des Arabes sunnites. C'est ça la bonne question. Et puis il faut, c'est peut-être notre
Daniel
conclusion,
Herbert, très, très
mais
rapidement pour conclure.
exactement, régler nos relations avec la Russie et avec la Chine, les deux grandes puissances anti-contestataires de l'Occident. Et au fond, on le fait assez bien. La Russie et la Chine ne sont pas les ennemis d'Israël. Elles profitent de la situation pour marquer des points vis-à-vis d'un Occident qu'ils estiment tous les deux les agresser. Pour Poutine, c'est l'aide que l'Occident apporte à l'Ukraine, et pour la Chine, c'est cette confrontation que les Américains développent depuis plusieurs années contre la Chine. Donc, ces deux puissances ne sont pas des ennemis d'Israël, et donc la négociation diplomatique, elle est entre Israël et les Américains pour montrer que on peut garder des relations suffisantes avec la Russie et la Chine pour qu'ils ne deviennent pas nos ennemis et qu'ils nous permettent de travailler en paix à l'établissement d'une paix longue qui viendra. L'année 2024 n'est pas une bonne année pour régler le problème puisque c'est une année d'élection présidentielle et au fond, Biden n'aura pas tout à fait les coudées franches pour faire tout cela. Mais on peut penser qu'après l'élection américaine, on pourra avancer un peu plus. Mais on ne sait pas encore qui sera le président, évidemment.
Daniel Haber, merci beaucoup pour ces conversations et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.